C'est parti. Voilà. Donc, je vous ai dit, oui.
Ça ne vous dérange pas de réexpliquer la décomposition en syllabes?
Oui, bah, de toute façon, on va écrire des mots, donc on va aussi apprendre à les lire. La décomposition en syllabes, c'est important. Hein. Donc, je rappelle pour ceux qui ont oublié, ou ceux qui sont des anciens mais qui ont oublié ces choses. Hein. Vous savez, moi j'ai mis longtemps hein, pour apprendre. Qu'il y a dans un mot hébreu autant de syllabes que de voyelles. Ça c'est un grand principe. Et que le sheva n'est pas une voyelle. D'accord? Ensuite, il y a une autre règle, c'est que quand un sheva ouvre une syllabe, on l'entend. Et c'est un « et » souvent. Quelquefois, les juifs disent un « e », mais c'est un « et ». Bon. Et quand le sheva est à la fin d'une syllabe, on ne l'entend pas. Ça, c'est des règles générales. Hein. Alors, la difficulté, c'est de savoir où se coupe la syllabe. Alors, nous avons parmi nous Monique qui pourra nous aider.
Merci, Monique.
Monique suit les cours de Raïm et elle est très avancée maintenant. Voilà. Donc, les principes généraux, c'est que les racines bibliques, je vous ai ramené ici un petit dictionnaire qui malheureusement n'est plus en vente, mais voilà. Ça, c'est un petit dictionnaire. Et quand vous l'ouvrez, eh ben, vous avez les racines. Et les racines, c'est trois lettres. Quelquefois quatre. Quand c'est quatre lettres, en général, ce sont des mots qui viennent de l'étranger et qui ont été absorbés par l'hébreu. Hein? C'est rare qu'il y ait des racines de deux lettres, ça arrive. Mais en général, c'est trois. Donc, il faut pouvoir, quand on a un mot, il faut pouvoir tirer la racine de ce mot. Alors, pour ceux qui ont un logiciel qui s'appelle la Bible Online, et je vous signale que c'est gratuit sur Internet, vous pouvez le télécharger et vous pouvez l'installer avec la Bible Second, très facilement, c'est gratuit, et vous demandez en même temps les Strong. Les Strong, c'est un dictionnaire anglais. Et ça vous permet de connaître très vite les racines. Parce que le strong, c'est la racine, si vous voulez. Et la racine, et ben, vous avez tous les sens qui s'affichent. Donc sans savoir l'hébreu, vous pouvez déjà analyser les textes. C'est intéressant. Ça ne vous empêche pas de venir au cours d'hébreu. Hein. Oui. Strong.
Online.
Online. Oui, c'est ça. Et vraiment, les Strong, c'est important. Alors, vous l'avez aussi pour le grec, hein, les Strong en grec et les Strong en hébreu. Et je vous assure, c'est un outil que tous les pasteurs utilisent. Tous les pasteurs utilisent quand ils prêchent, ils vous disent « Ah ben oui, ben, j'ai été voir les Strong et le sens du mot, c'est ça peut être ceci, ça peut être cela. » Très important. C'est un outil gratuit. Vous pouvez le charger, c'est génial. Bon, je m'en sers tous les jours. Donc, on va avoir des préfixes et des suffixes dans un mot. Et vous avez des mots qui ont été contractés en une lettre. Alors, il y en a toute une série. D'abord, l'article. L'article, c'est, il n'y en a qu'un seul. Le, la, les, c'est la même chose. Il n'y en a qu'un seul, c'est pas compliqué. L'article, c'est un « he » avec un « a » bref en dessous et un « dagesh », un point, dans la lettre qui suit. Ça, c'est un article. Oui, c'est pas compliqué. Alors, on va, par exemple, écrire... aujourd'hui, c'est un jour particulier. On est à Shabbat. Vous êtes d'accord? Donc, si j'écris Shabbat, c'est à Shabbat. Mais si j'écris « oh Shabbat », ça veut dire « le Shabbat ». Alors, on va l'écrire. Regardez, je vais écrire « Shabbat ». Donc, c'est un « shin », comme ça. Alors, avec quel « or » on va prendre parce qu'il y a différents « or ». Donc, dans le... Je l'avais écrit, donc peu importe. On fait un « o » long, un « bet » avec un « dagesh » dedans, parce que sinon ça va devenir un « quoi ». Quand il n'y a pas de « dagesh », c'est un « v ». Quand il y a un « dagesh », c'est un « b ». Donc, j'écris « shabbat ». Le tav à la fin. Oui, mais c'est pas un verbe. Hein. Il peut avoir deux halons en suivant. C'est pas un problème. En vérité, ici, normalement, c'est pas un verbe, attention. Hein. On a un bref, un long, comme ça. Ça, c'est Shabbat. Maintenant, si je veux dire le Shabbat, eh bien, je vais rajouter devant le A, comme ça, avec un dagesh, dans la lettre qui suit. Vous voyez? Ça, ça fait le Shabbat. Ça va, c'est clair? Bon, alors, je vous signale que de temps en temps, vous avez des lettres qui n'ont pas le droit de prendre un dagesh. Il y en a cinq. Hein, ce sont des lettres qui sont sur la feuille que j'ai distribuée sur la feuille des lettres. Ce sont des lettres... alors, vous avez le « he » qui n'a pas le droit. Vous avez le « chet ». Vous avez une lettre qui n'a pas le droit, c'est le resh. Vous avez le aleph qui n'a pas le droit et le ayn. Voilà, ces lettres-là n'ont pas le droit de prendre un dagesh. Elles sont à part. Ce qui fait que quand vous avez un mot qui commence par une de ces lettres-là, eh bien, le dagesh qui devrait être mis ici, il ne peut pas se mettre. Il ne peut pas. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que, ben, bien sûr, on ne le met pas, donc je le retire, et on allonge le A. C'est de la grammaire. Hein. Bon, vous inquiétez pas, vous n'allez pas tout retenir. Mais quand on étudiera des versets, je vous le dirai, je vous le rappellerai. Mais vous voyez que de temps en temps, vous avez ça au début, et derrière, il n'y a pas de dagesh, et bien c'est aussi l'article. D'accord? Oui?
Il y a deux T, il y a le tav et le
grec. Oui. Pourquoi l'un ou l'autre? C'est une question d'orthographe. Le Shabbat, c'est avec un tav. Maintenant, si tu l'écris avec un tête, ça, c'est embêtant parce que le tête, c'est un serpent enroulé. Le jour du Shabbat. Par contre, si tu écris Satan, regardez, Satan, ça s'écrit comment? Ça s'écrit avec un S, ça en voilà un. Le point est à gauche, vous êtes d'accord, hein? Ça va, tu vois, là? T'es pas bien. Alors, je vais mettre un halon comme ça. Je fais un tête, donc, ici. Je vais effacer ça. Voilà. Donc je vais mettre ici un A bref et un Nun final. Voilà Satan. Celui qu'on appelle Satan. Mais en réalité, il faudrait dire Satan en hébreu. Et vous voyez qu'au milieu, ben, il y a le serpent. C'est son cœur. Il y a de la symbolique hein, dans tout ça. C'est... On essaiera de les découvrir, tous ces symboles, au fur et à mesure. Hein. Ça va, c'est clair ? Oui. Ça dépend, on peut avoir les deux. Ben, le dagash, il n'y est pas, là. Le dalet. Ça, ce sont les lettres qui ne peuvent pas. C'est un resh, ça. Attention, la différence hein, entre... Voilà, ça, c'est dalet. Ça, c'est resh. Vous voyez, la petite queue qui est là. C'est important, hein, ça. Ça va, c'est clair ? Bon, alors, donc, la première lettre qui peut être collée devant, c'est l'article. C'est très courant, c'est pour ça que je vous le fais au début du cours, comme ça, parce qu'on va avoir plein de lettres collées devant les mots, et il faut savoir d'où ça vient. Alors, ensuite, il y a une autre lettre qui peut être collée devant, c'est un kav avec un dagesh et un sheva comme ça. Quand vous collez ça devant le mot, ça veut dire comme. Alors je vais essayer de vous en montrer un. Ça c'est comme. Par exemple, je vous écris un kaf avec un sheva, aleph avec un segol, c'est-à-dire trois petits points, un resh avec trois petits points aussi, et on termine par zayin, comme ça. Alors, vous allez essayer de lire ce mot. Oui, vas-y.
Je pense,
hein,
Keretz.
Ah non.
Ah, c'est pas là.
Tu vas trop vite. Ké. Et rez. Attention, c'est pas tse, hein. C'est un Z. Ké et rez. Si je l'écris en phonétique, on écrira Ké. Apostrophe pour dire qu'il y a un aleph et kérez. Voilà comment ça se lit. Alors ça veut dire quoi ? Bon ben, on a de la chance aujourd'hui parce que on sait que ça, ce qui est devant là, ça veut dire comme. Et puis, vous avez les trois lettres. Alors, vous prenez votre dictionnaire et vous allez voir le sens de ces trois lettres. Et vous allez vous rendre compte que ça, c'est un cèdre. C'est un cèdre. Donc, le petit mot qui est écrit ici, c'est comme un cèdre. Il n'y a pas d'article ici. Je ne vois pas d'article. D'accord ? Donc ça veut dire comme un cèdre. Ça va, c'est un jeu de construction. Hein. Si vous aimez les Lego, ça va aller, sinon... Alors, on va essayer d'en prendre un autre. Comment on dit du pain en hébreu ? Vous le savez. Non. Lechem. Bet Lechem. Maison du pain. Lechem, c'est plus que du pain, c'est de la nourriture en général. Hein? Alors, Lechem, on va l'écrire. Donc, c'est Lamed. Alors, il y a un dagage dedans avec un sigol, trois petits points, un E, un chet, trois petits points, et un même final. Et on lit l'echem. Ça, c'est du pain. Si je voulais écrire... Alors, les chem, je vais l'écrire en phonétique. Les chem, comme ça. Donc, H souligné. C'est du pain. On pourrait écrire le pain. Il faudrait rajouter l'article devant. Alechem. D'accord ? Ça, ça ferait le pain. Mais moi, je voudrais écrire autre chose. Je voudrais écrire...
Si on écrit Bélimeu, le dagash, il est déjà dans le lamed, donc ça serait deux
dagashs superposés. Ça, c'est... Regardez, je vais vous écrire le pain. Hop. Voilà, ça, c'est le pain. Alechem. Ça, c'est le pain.
Le Daniel, c'est pas comme dans Shalom
Aleichem. Si ? C'est A-E, non, l'Echem, c'est... Ah, mais l'Echem, Aleichem, c'est sur vous, c'est pas le même mot.
Non, c'est pas le même,
c'est pas le même mot du tout. Hein? Shalom Aleichem, c'est la paix soit sur vous. C'est pas pareil. Ça va ? Alors, je retire l'article là et je vais écrire. Regardez ça. Ici, je vais mettre comme ça. Un kaf avec un dagesh dedans et un a bref. Alors, je vais un peu corser la chose là. Parce que je vous ai dit que le com, c'est un kaf avec un dagesh et un sheva. Et ici, je l'écris un kaf avec un dagesh et un a bref. On lit kalechem. Alors, je ne vais pas faire ça pour vous faire peur, mais pour vous montrer qu'il faut faire attention, mais à tous les détails. Tous les détails. Parce que j'aurais pu faire un sheva ici, kelerem. Si j'écris kelerem, ça veut dire comme du pain. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça va, vous me suivez? Mais ici, j'ai écrit kalerem. Alors, regardez bien. C'est comme si j'avais écrit ke A, avec dagesh derrière, ke a lechem. Mais, c'est déjà deux mots contractés, ça. Eh bien, on contracte encore. C'est-à-dire que celui-ci, il s'évapore, le E, et ici, à la place, on met A. Et moi, quand je vois ça, je dis, tiens, il y a l'article. Et l'article est caché. Et ça, ça veut dire comme le pain. Vous voyez ? L'article est caché. Et le hé, je vous rappelle que c'est la lettre qui représente le souffle. Le hé est une lettre faible, c'est-à-dire qu'elle peut sauter comme ça. Elle peut disparaître et il reste une trace. C'est tout. Ça va?
Le sens est différent, là?
Non, là, c'est comme le pain.
Oui.
Je ne vais pas vous faire de la grammaire toute l'année, rassurez-vous. Ici, c'est juste pour démarrer, pour vous montrer que le moindre détail, ça change le sens de la phrase. Une histoire de point, une histoire de « hoc », etc. Et c'est très important, et on va voir après le premier verset de la Bible, et vous allez voir comment il est mal traduit. Alors, ça, c'est le « comme ». Ensuite, il y a une autre lettre qui vient tout le temps, mais tout le temps dans toute la Bible, c'est le « vav ». Alors, le « vav », il peut prendre plusieurs formes. Vous voyez, un vav, c'est ça, c'est un clou. Hein. Il peut prendre avec un sheva. Il peut prendre avec un a. On peut l'avoir en faisant un ou, comme ça. On peut l'avoir aussi avec un i. Vous voyez, comme ça. Oui, le O, mais pas au début. Ça, je dis, ça, c'est mis en préfixe. Eh bien, ça, ça veut dire à chaque fois, ça veut dire « et ». Que ce soit l'un ou l'autre, ça veut dire « et ». Et dans la Bible, vous allez avoir des « et » tout partout. Et David a pris 5 cailloux, et il a pris sa fronde, et il a lancé son caillou, et ceci, et cela, et ceci, et cela. C'est toujours comme ça dans la Bible. Donc des « et », il y en a partout. D'accord? Alors, par exemple, on va écrire « et du pain ». Et du pain, ben, je n'ai pas besoin de mettre le dagesh ici. Hop, je vais écrire. Alors, je mets devant un vav avec un ségol. Et ça, c'est et du pain. C'est pas écrit et le pain. Il n'y a pas d'article. Ça va? Bon. C'est très important, hein, le vav. Du vav, on va en parler régulièrement parce que ce vav, il fait un tas de choses. Et je vous signale que le vav, ça représente aussi Yeshua. Et qu'on va découvrir en lisant la Bible, et ça, c'est une règle biblique, on ne le trouve pas dans l'hébreu moderne, on va découvrir que le vav est capable d'inverser le temps. Parce que Yeshua est le maître du temps. Donc quelque chose de passé peut devenir l'avenir avec le vav. Il peut inverser le temps. Mais ça, on le verra au fur et à mesure quand on étudiera des versets bien précis. Ensuite, vous avez un autre préfixe que vous allez trouver très souvent. C'est le « bet » avec un « dagesh » dedans et un « sheva ». Ça, ça veut dire « dent ». Non. Ça, je vais l'effacer. Alors, l'ombre. L'ombre, c'est simple. C'est un mot de deux lettres. C'est Tzadi avec un ré, bref, et lamed. Tzel, c'est une ombre. D'accord ? Eh bien, si je veux écrire dans l'ombre ou à l'ombre, je vais mettre ici un bet devant avec un shiva. Et ça veut dire à l'ombre. Il n'y a pas d'article. Je vais l'écrire dans une ombre. Il n'y a pas d'article. C'est une ombre, je ne sais pas laquelle. Alors vous voyez, quand vous ne connaissez pas ça, ben vous allez voir dans la Bible quoi ? Vous allez chercher une racine, bet, tzadi, lamed, et vous vous plantez. C'est pourquoi, quand on étudie un verset biblique, on peut passer une semaine dessus. Ça prend un temps fou. Et heureusement qu'il y a des outils, heureusement qu'il y a des gens pour nous aider, parce que je vous assure que par moments, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je vais essayer de... Bon, c'est dedans. Oui. Non, il n'y en a qu'un seul. C'est toujours A. Ah, c'est à nous à savoir que le mot est au pluriel, qu'il est féminin, etc., etc. C'est à nous à le savoir. Il y a le, la, les, c'est toujours A. Il n'y en a qu'un. Oui. Oui. Eh bien, en hébreu, c'est B. Betzel. Ça va ? Je vais vous écrire quelque chose et vous allez essayer de me dire, d'abord le lire, et de me dire ce que ça veut dire. Alors je fais un vav avec un dagesh dedans. Un même avec un ségol, un lamed avec un ségol et un kaf final. Alors, essayez de le lire. Alors, comment on lit ça ? Oumeler. Est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire Meler ? C'est un roi. Un roi, c'est Meler. D'accord ? Et le ou devant ? Ça veut dire et ? Donc, ici, on vient d'écrire et... Un roi. Il n'y a pas d'article. Vous voyez ? Oumeler. Bon. Ça va, vous n'êtes pas tout à fait mort ? Je peux continuer ? Bien. Alors, il y a encore d'autres lettres qui se mettent en préfixe et il y en a une en particulier qui est le lamed. Le lamed, donc, je vais effacer ça. En préfixe, lamed avec un shiva, et souvent un dagesh dedans, eh bien ça veut dire pour ou vers. Voilà. Par exemple, le mot Olam en hébreu, ça veut dire le monde, mais ça veut dire aussi toujours. Ça a deux sens. Hein? Donc c'est éternel, si vous voulez. Alors je vais écrire Olam. Olam, c'est Ein. Avec un O, donc un Vav avec un point dessus, Lamed, avec un A long, et un même final. Ça veut dire toujours. Mais ça veut dire aussi l'univers. Ça a deux sens, hein. Si maintenant je veux dire pour toujours, ben je vais ajouter devant le lamed. Alors, on peut l'avoir avec ou sans dagesh, ça dépend les mots qui précèdent, en fait. Comme ça, si vous avez ça, léolam, ça veut dire pour toujours. Là, on fait les préfixes les plus importants, hein. Parce qu'on va les retrouver tout le temps. Donc c'est pour ça que je les mets maintenant. Comme ça, vous en aurez la liste et j'ai mis le tableau sur le papier que je vous donnerai. Et puis, enfin, il y a encore un préfixe qui est très important, qu'on va retrouver aussi tout le temps. Ça va ? Il y a un mot qui s'écrit même avec un i et un nun final, min. C'est un petit mot, min. C'est pas les mines de charbon. Hein. Min, ça veut dire depuis. Je viens de New York, je viens de je sais pas où, voilà, donc ben, c'est mine, d'accord? Et quand on le contracte et qu'on le met en préfixe, eh bien ça devient un même, avec, on va voir ce qu'il y a, ça peut être un Sheva, et un point dans la lettre qui suit. Donc, quand c'est contracté, collé à un mot, ben ça veut dire depuis quelque chose, et le mot est là. Je vais, par exemple, vous écrire quelque chose que vous allez reconnaître, normalement. Donc, je commence par mi. Puis, je remets un même avec le dagesh dedans. Donc, vous voyez, j'ai mon min. Vous le reconnaissez. C'est pas forcément un sheva, hein. C'est mi avec le... C'est comme si le nun laissait un souvenir sous la forme d'un point. Ici. D'accord? Et puis, je continue mon mot. Je mets un i ici. Un tsadi avec un sheva, un resh avec un a, bref, un yod avec un point, et un même final. Alors, essayez de lire ce mot. Donc vous avez demi au départ, mi, mitz, Raïm. Mitzraïm, c'est l'Égypte. Donc vous avez l'Égypte ici, comme ça, et devant vous avez le Min. Donc, c'est, si je traduis, c'est depuis Égypte. Alors là, je peux mettre l'article parce que de toute façon, il n'y en a qu'une. Hein? Vous voyez ? Devant un nom propre, on ne met pas d'article. Non, ça peut être autre chose. Tout dépend de ce qu'il y a à côté, etc. Alors après, c'est des règles de grammaire. Mais là, on a fait toute une série Par exemple, je vais en écrire un autre. Alors, j'écris un même avec un i, un kof avec un dagesh dedans. Donc, tout de suite, je dis, ah tiens, il y a un min. Il y a un min devant, là. Et puis, on continue, un ségol ici, donc c'est un E. Un tsadi avec un E aussi, un ségol. Et on termine par un P final, qui est en fait un F. Alors, vous allez essayer de lire ce mot. Mi ke tsef. C'est un F, ça. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de dagesh dedans. Donc, c'est pas un P, c'est un F. Donc, Miketsef. Alors, je vois qu'ici, au départ, il y a un min. Toc. Je suis content parce qu'il ne me reste que trois lettres. Je vais voir dans le dictionnaire. Et je m'aperçois que ces trois lettres-là, le sens, c'est le courroux de Dieu. C'est le courroux, la colère. Donc, ici, le sens, c'est depuis, colère, mais il n'y a pas là. Il n'y a pas l'article. Et on va peut-être trouver, parce que c'est une construction, on va trouver le nom de Dieu derrière. Et c'est comme si on avait écrit depuis. À cause de, c'est un autre sens, depuis la colère de Dieu. Vous voyez ? Et on traduira comme ça. C'est pas simple, hein ? Vous voyez ? Bon, je voulais vous montrer tout ça, mais par exemple, si on veut, je vais encore en écrire un. Ah bah ici, c'est... J'écrirai Mike, c'est Iketsef. Miketsef. Vous comprenez pourquoi il faut des années pour creuser dans la Bible? Je vous écris encore quelque chose. Un lamed avec un i bref, un shin avec un sheva, un mem avec un o, bref, et un ein avec un a bref. Essayez déjà de le lire. Alors, vous lisez ça comment ? Lishmoa. Lishmoa. Lishmoa, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous reconnaissez des lettres là-dedans ? Alors, vous voyez, on se dit, tiens, il y a un préfixe, lamed. Est-ce que c'est un préfixe ? Question. Alors, il faut de l'habitude, un petit peu. Parce que je vous avais dit, le préfixe lamed, normalement, c'est lamed Sheva. Bon, regardez, on va le mettre. Je mets un Sheva ici. C'est pas beau, ça, hein ? Deux Sheva qui se suivent, c'est pas beau. Donc, ils ont décidé une grammaire, et ils ont dit, quand il y a deux Sheva qui se suivent comme ça, le premier devient I. C'est une règle de grammaire, ne la retenez pas. Mais je vous dis que là, devant, il y a le lamed. Et les lettres qui suivent, mais c'est les lettres du verbe shama. Shma Israël. Écoute. Donc c'est le verbe écouter à l'impératif. Non, il n'y a pas besoin. Quelquefois il y a, quelquefois il n'y a pas. Ça dépend de ce qui précède, etc. Je suis désolé. Et donc ici, qu'est-ce que veut dire ça ? Ça veut dire pour écouter. Voilà ce que ça veut dire. Ça va ? Bon, tout ça c'était pour vous effrayer. Pour voir ceux qui vont résister et qui vont tenir toute l'année. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va regarder le premier verset de la Bible. Il est pas très long. Hein? Lishmoa. J'ai mis un apostrophe pour dire que c'est un ein, parce que le ein, on ne l'entend pas. Donc quand c'est le aleph ou le ein, on peut mettre un apostrophe. Il y en a qui le mettent, il y en a qui ne le mettent pas. Je vous rappelle qu'on ne fait pas de faute quand on est en phonétique. Ce qui compte, c'est qu'on ait le son. D'accord ? Ça va ? Bon, maintenant... On va voir le premier verset de la Bible qui a fait couler tant d'encre. La première question d'ailleurs que les Juifs se sont posées, c'est pourquoi est-ce que ça commence par la lettre Bet et non pas Aleph ? Alors ça, c'est des questions philosophiques et on ne va pas les aborder. Alors, j'écris... Un bet avec un dagesh et un sheva. Un resh avec un et bref. Un aleph sans rien. Un shin avec un i long. Et on termine par un tav. Voilà, ça c'est le premier mot de la Bible. Et qui va d'ailleurs donner le nom du livre. Les Juifs lui ont donné ce nom. Nous, on a appelé ce livre Genèse, mais eux, ils ne l'appellent pas Genèse. Alors, qu'est-ce qu'on a au début ? On va le lire, hein ? B, Ré, Chit. Le Aleph ici, on l'entend pas. En plus, il n'a même pas de voyelle. C'est un cas rare, mais ça veut dire que dans l'orthographe du mot, il y est. D'accord ? Alors, qu'est-ce que vous reconnaissez dans ce mot ? On a vu les préfixes. Et vous en avez un, là. Dans. Et le réchit. Le réchit, alors, il faut aller voir dans un dictionnaire. Vous pouvez éventuellement, peut-être, trouver le mot réchit. Mais surtout, vous allez trouver la racine. La racine, c'est la... Alors, je vous mets la racine comme ça, hein, comme en maths. Hein. C'est, souvent, c'est comme ça qu'on fait dans un cours d'hébreu. La racine, c'est le mot resh avec un O bref, aleph, shin. Que vous prononcez roche. D'accord ? Ici, dans une semaine, on va être à Rosh Hashana. Rosh, c'est la tête. A, c'est l'article du mot Shana. Et Shana, ça veut dire un cycle. D'accord ? Donc, c'est la tête d'un cycle, c'est-à-dire la tête d'une année. Et je crois que c'est le 30 septembre, on sera à Rosh Hashana, qui est la fête des trompettes, mais qui est également le nouvel an civil en Israël. Il y a plusieurs nouvel ans en Israël, hein, je vous signale. Ils sont toujours en train de faire des nouvel ans. Il y a les nouvel ans des arbres, il y a le nouvel an spirituel qui est à Pâques, à Pessah, etc., etc. Donc il y en a plusieurs. Mais ici, le nouvel an civil, c'est Rosh Hashana, la tête du cycle. Vous comprenez ? Donc ici, Rosh, c'est la tête. Et on pourrait traduire brutalement dans une tête. Le Réchit, vous voyez, ça a été construit à partir de Rosh. Et le Réchit... Le Réchit, ça peut être traduit par début, commencement. Mais vous voyez dans nos Bibles, il est traduit, si je prends la Bible Second, il est traduit au commencement. Si je dis au commencement, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un. C'est comme si je disais dans le commencement. Or, je n'ai pas d'article. J'ai pas d'article. Il faut être sérieux avec la parole de Dieu. Il n'y a pas d'article. Donc la traduction, c'est dans un commencement. Ça veut dire qu'il y en a peut-être eu des autres avant. Et ça change tout. Vous comprenez ? Et les Juifs, eux, ils ont compris ça depuis longtemps. Il y a eu des cycles avant. Et le cycle actuel, ben, c'est un cycle. Vous voyez ? Mais ce n'est pas le commencement. Il y en a eu d'autres avant, certainement. Sinon, Dieu l'aurait mis. Vous voyez comment on peut tromper ? C'est extrêmement important de regarder dans le détail et d'aller vérifier les traductions. Ne faites pas confiance les yeux fermés aux traductions. Regardez-en plusieurs, etc. La traduction Chouraki est différente. Lui, il dit ça autrement. Il dit en tête. En tête. Et puis on continue. Alors, dans une phrase hébraïque, vous avez donc ici ce premier mot. Et puis ensuite, vous allez avoir le verbe et le sujet derrière. C'est pas construit comme nous. Donc, le mot suivant, c'est un verbe. Et ce verbe, ici, c'est... Alors, je l'écris comme ça, ça commence par un bête. Un bête avec un halon, un resh avec un halon, le bête a un dagesh, et on termine par un aleph. C'est un mot tout simple. Bereshit bara. Bara. Ça a roulé. Bara. Alors ça va. On va voir dans le dictionnaire. Et on va voir ce que ça veut dire. Alors, le verbe bara, c'est un verbe qui est réservé à Dieu. Pourquoi ? Parce que ça veut dire créer à partir de rien. Il n'y en a qu'un qui est capable de faire. En vérité, ce n'est pas tout à fait vrai. Il crée à partir de lui-même. Mais oui, il faut bien que... Donc, il prend de lui et il crée. Même quand on dit une parole, ça vient de lui. Et il crée par la parole. D'accord ? Alors, je vous signale que dans le psaume 51, qui est le psaume de David, la repentance de David, il y a un endroit très important où il dit « Crée en moi un cœur pur ». Eh bien, ça veut dire « Crée à partir de toi un cœur nouveau pour moi ». Autrement dit, « Mets en moi un morceau de toi ». C'est ça que ça veut dire. Un cœur pur. Mais il n'y a que lui, il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. C'est un verbe qui est réservé à Dieu, ça. C'est la création ex nihilo. D'accord ? Donc c'est une nouvelle création, un nouveau cœur, à partir du cœur de Dieu. Voilà. Alors ici, après, il faut rentrer dans les conjugaisons, on ne va pas le faire, rassurez-vous. Mais vous avez des conjugaisons en hébreu. Donc, notamment, vous avez ce qu'on appelle l'accompli, l'inaccompli. On ne parle pas de présent, de choses comme ça. Parce que dans l'hébreu, le présent, c'est déjà de l'accompli. Quand vous êtes au présent, que vous faites quelque chose, c'est déjà fini. Vous voyez ? Donc, il y a l'accompli, l'inaccompli, et puis il y en a encore d'autres derrière. Mais les deux grands temps, c'est ça. Alors après, il y a les temps qui sont actifs, très actif, passif, etc. Donc on verra au fur et à mesure dans les traductions des versets et en même temps qu'une étude biblique. C'est comme ça qu'on le verra. Parce que si je vous fais de la grammaire, d'abord, il faudrait que j'en ai la capacité, ce qui n'est pas sûr, c'est pas évident, mais ça dégoûte tout de suite, quoi. Ça, c'est clair, hein.
C'est trop.
Moi, j'ai fait ça pendant 8 ans et je vous assure que... Oui.
Pourquoi dans nos Bibles, on a traduit au commencement et ça
a toujours fait. Ben, on s'est trompé.
Et qu'à l'origine, c'est dans.
Oui, c'est dans un commencement. Alors tu peux dire, si tu dis au commencement, c'est comme si il n'y en avait qu'un. Et c'est faux. Parce qu'il n'y a pas d'article. Il n'y a pas d'article. Vous voyez ? Mais ça change toute la philosophie, cette affaire-là. Alors, bara, ça veut dire, je mets entre parenthèses, il, parce que c'est la troisième personne du masculin singulier, il se trouve que dans ces versets, Dieu est au masculin singulier, il a créé. Quelquefois, on dit « il créa ». Non, mais là, c'est de l'accompli. Il a créé. Donc, dans un commencement, Il a créé, le il n'y est pas, mais on le sait parce que c'est la troisième personne du masculin singulier. Et qui c'est qui a créé? C'est un nom au pluriel. Ben oui, c'est Elohim. Alors, je vais écrire Elohim là. Donc, Elohim, ça commence par un Aleph. Ensuite, vous avez un Sheva coloré en ségol. Donc, ça veut dire que vous avez un Sheva ici qui est coloré en ségol. Ça veut dire que ça devient un E, tout simplement. Et l'eau, donc l'amène avec un O bref. Et ensuite, Im, donc un He avec un I long et un même final. Voilà. Donc, on sait qui est le il au singulier, ici. Eh bien, figurez-vous que c'est un pluriel. Très curieux, quand même. Mais on sait que Dieu, Elohim, il est Echad, il est un. Il est un, donc on le met au singulier. Et ça représente toutes les forces créatrices. Je vous avais dit, hein, il y a deux grands noms de Dieu. Je vais les remettre parce que c'est important. C'est très très important parce que c'est comme ça qu'on comprend qui est le Père céleste, etc. Et comment on peut se comporter. J'ai découvert aussi il n'y a pas très longtemps que le rocher qui les suivait dans le désert, il a deux noms différents. Et que l'un est frappé, et que l'autre, il faut lui parler. Et c'est le même. Et il les suit. C'est très intéressant. Un jour, on en parlera. Donc, vous avez deux noms très importants, c'est Yod, He, Vav, He. Moi, je dis toujours Yod et Vavé. Hein? Et puis vous avez Elohim.
Non, mais Elohim, c'est à droite.
Ouais, non, mais je mets les deux.
Ah, oui. Hein?
Alors, dans nos Bibles, Yod et Vavé est traduit par éternel. Et Elohim est traduit par Dieu. Dans la version seconde, c'est comme ça. Donc on doit l'éternel Dieu, etc., etc. Mais on découvre que c'est pas la même chose, que ce sont deux versants, parce que Dieu a plusieurs faces, ce sont deux versants de la même personne, mais qui font des choses différentes. Elohim, allez donc voir dans le chapitre 1 qui raconte la création de Dieu, c'est toujours Elohim qui crée. Le créateur, c'est Elohim. Et si vous étudiez plus loin, vous allez découvrir que Elohim, c'est celui qui annonce les lois. Moi, je l'appelle le garde des sceaux. C'est le garde des sceaux dans les cieux. Donc, Elohim, c'est les lois. Les lois. Par exemple, les 10 commandements, c'est Elohim qui va les donner. Mais c'est le législateur. Donc les lois plus création. Tandis que Yod et Vavé, c'est l'attribut d'amour. C'est ce qu'on appelle le chesed en hébreu. C'est l'amour inconditionnel. Et j'allais dire, le Père céleste, c'est l'ensemble des deux. Et on ne peut pas séparer l'un ou l'autre. Donc vous voyez, quand on enseigne le légalisme, ben c'est comme si on enseignait les Elohim tout seul. Quand on enseigne l'hypergrâce, Tu peux faire tout ce que tu veux, de toute façon, Dieu va te pardonner. Hein, même si tu ne demandes pas pardon. Et bien là, tu enseignes au dévavé tout seul. Donc, vous voyez, il y a un équilibre à avoir. Et le Père Céleste, c'est les deux. C'est l'ensemble des deux. C'est très important à comprendre ça. Et c'est la même chose pour le rocher qui les suivait dans le désert. Il y en a un qui est plus attaché à Elohim et l'autre plus à Yodévavé, alors que c'est le même. Et il nous est même dit, c'était Christ. Vous voyez ? C'est très important, hein, il y a des choses à comprendre derrière. Hein. Ça va ?
Et dans le texte en hébreu, on met rocher.
Dans le texte traduit en français,
oui.
C'est hébreu, toujours c'est rocher.
Et en hébreu, c'est comment ?
Non, il y en a un, c'est là. C'est là. Et l'autre, c'est tsour. Et nous, dans nos Bibles, c'est toujours traduit par rocher. Tsour est frappé. Et c'est là qu'on doit lui parler. Mais quand on ne fait pas l'étude en hébreu, on ne le voit pas. On ne voit pas ça. Vous comprenez? Bon, j'ai en route une étude là-dessus parce que tsour, c'est... Vous savez, quand vous prenez le mot Mitzrayim, le tsa qui est au milieu du mot, c'est l'esclavage. Tsour, c'est la même racine, c'est lui qui a été frappé, c'est l'esclavage qui a été frappé. Bon, il y a des choses à comprendre. Oui. Echad, oui. Echad, ça veut dire un, mais c'est une unité composite. Par exemple, un couple, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils formeront une seule chair. Ils seront Echad. Donc, ils ont deux personnes qui forment une unité. C'est une unité composite. C'est pour ça que Elohim aussi est au pluriel. Et ça représente toutes les forces créatrices de Dieu. C'est très compliqué à comprendre parce que tout ça, c'est la même personne au bout du compte. Mais Dieu a toujours, je vous avais dit, hein, on ne parle pas de la face de Dieu jamais dans la Bible. C'est toujours au pluriel. Les faces, panim, tout le temps. Alors, donc, le verset, c'est « Bereshit bara Elohim ». Ensuite, vous avez un petit mot qui est « Aleph » avec un « E » et un « Tav ». Quelquefois, ce sera « Aleph, Ségol, Tav. On peut avoir les deux. Ça peut vouloir dire avec. Ça peut vouloir dire avec. Mais ça peut être aussi un complément d'objet direct. COD. Et ce COD, on ne le traduit pas. C'est comme s'il y avait un trait d'union ou quelque chose comme ça. D'accord ? Eh bien, qu'est-ce que vous remarquez ? Yeshua, il a dit, je suis l'Aleph et le Tav. L'alpha et l'oméga en hébreu, en grec. Je suis l'Aleph et le Tav. Le voilà. Et comme par hasard, on ne peut pas le traduire. C'est intraduisible. Mais il est partout. Il est à toutes les lignes en hébreu. Autrement dit, l'Aleph et le Tav est partout dans la Bible. C'est la présence de Yeshua qui est là partout. Il l'a dit, je suis l'Aleph et le Tav. Parce que les évangiles ont très très certainement été écrits en hébreu à l'origine. et décalqué en grec ensuite. Décalqué. Ça veut dire qu'on a pris les expressions hébraïques et on les a mises en grec. D'accord ? Donc, si je continue mon verset, je relis Bereshit bara Elohim. Donc, ça veut dire dans un commencement, il a créé Elohim, le il entre parenthèses parce qu'il n'y est pas, et, on traduit pas, complément d'objet direct, qu'est-ce qu'il a créé? On y arrive. Et alors j'écris un « et » avec un « abref », un « shin » avec un « dagesh » dedans, un « alon », un « même » avec un « abref », un « yod » avec un « i » et un « même » final. Alors, donc, il a créé Elohim, il a créé quoi ? Hashamaim. Alors, vous reconnaissez quoi devant ? L'article. Donc, cette fois, ça devient précis. Et Shamaïm, ça veut dire quoi ? Alors, regardez bien. Ce sont les cieux, effectivement. Ce sont les cieux. Mais regardez. C'est un pluriel très particulier. C'est le même pluriel que Yerushalayim. Ça se termine par Aïm et non pas Im. Im, c'est un pluriel multiple. Aïm, c'est un pluriel binaire. Deux. C'est-à-dire que Dieu, Elohim, a créé deux cieux. Ah oui, mais dans les traductions, il est marqué « les cieux ». Oui, mais on comprend à travers ça qu'il y en a deux.
C'est pas trois, c'est deux.
C'est pas trois.
Ni au septième ciel, ça n'existe pas.
Et les histoires de septième ciel et tout ce que vous voulez, tout ça, c'est du pipeau. Il y en a deux. C'est dans la Bible. Alors, qu'est-ce que ces deux ciels ? Ces deux... Eh bien, il y a le ciel où Dieu se trouve avec ses anges, et puis il y a le nôtre. Oui. Alors, justement, en parlons-en du troisième ciel. À quel moment y a-t-il eu la création du troisième ciel ? Parce que justement, Paul, il dit, j'ai été ravi au troisième ciel. Ah, zut, ça marche plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre deux ? C'est que Satan, et on le voit dans Ézéchiel, il a été jeté du ciel, donc du ciel où il était avec le Père, et il n'est pas encore jeté sur terre. Donc il est mis dans une zone intermédiaire que nous, on appelle le deuxième ciel, mais c'est marqué nulle part. Il y a donc le ciel où Dieu le Père se trouve. De là, de cette montagne, est jeté Satan en dessous. Et nous, nous sommes encore en dessous. Et c'est d'ailleurs pour ça que Daniel, quand il a prié, il y a eu 21 jours avant d'avoir une réponse. Parce que celui qui apportait la réponse, il a été... embêté en route, on va dire, par les démons qui se trouvaient dans le deuxième ciel. Donc vous voyez que cette tranche-là, elle a été créée bien après ça. Et à ce moment-là, évidemment, quand Paul dit qu'il est monté au troisième ciel, ben c'est lui, il est monté tout en haut. Vous comprenez? Donc c'est comme ça qu'on comprend les choses. Mais au départ, il n'y en avait que deux. Et à la fin, dans l'Apocalypse, on voit que Michaël va combattre Satan et va le chasser du ciel et le faire tomber sur terre. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus que deux ciels, de nouveau. Et nous, on aura des ennuis sur terre. Vous comprenez le mécanisme? Donc, il a créé... C'est important de voir ces traductions-là. Vous voyez, avec un verset. Alors, on continue. Et on a maintenant... un vav avec un sheva. Aleph avec un hébref. Tav. Et puis, je mets le dernier mot, un « et » avec un « a » long, « aleph » avec un « a » long, un « resh » avec un « ségol » et un « tsadi » final. Voilà. Donc vous allez essayer de lire ce qui est écrit. Alors, V et, donc si je l'écris en phonétique, ça fait V apostrophe pour le Aleph, et, V et, V et, A, arrête. Véet, aaret. Ça, c'est de la phonétique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va comprendre? Bien que, ici, vous avez collé le vav. Ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est un préfixe qui veut dire et. Et ça, c'est le complément d'objet direct qui ne se traduit pas. Autrement dit, « v-et », ben ça veut dire « et ». Donc, il a créé les deux cieux « et ». Alors, maintenant, on arrive ici et on remarque que ça ressemble à un article. Mais il n'y a pas de dagesh. Vous vous rappelez? Un article, c'est ça, hein? Comme ça, un « et » avec un « a » bref et un « dagesh » dans la lettre qui suit. Mais, pas de bol, le « aleph » n'a pas le droit d'avoir un « dagesh ». Quand c'est comme ça, on ne met pas le point puisqu'on n'a pas le droit et on allonge le « a ». Et donc, j'ai bien ici... un article. Alors après, il faut connaître évidemment, oh, on a de la chance, il reste trois lettres. Je vous assure qu'on a de la chance quand c'est comme ça. Vous gagnez un temps fou. Vous allez voir, sans le dictionnaire, ça marche, j'ai trouvé. Oh. Parce que, quelquefois, il y a une lettre qui, elle fout quand. Quelquefois, il y en a deux. Il n'en reste plus qu'une. Bah, débrouillez-vous. Alors, vous allez voir les Strong. Hein. Bonjour, monsieur Strong. Alors, ici, le mot Eretz. Eretz, c'est une région, mais ici, c'est le globe terrestre. Alors, pourquoi c'est devenu A? Parce que, ben, A, Eretz, c'est pas beau, ils l'écrivent comme ça. Il y a une règle de grammaire derrière. Et donc, les voyelles ont changé et on dit A, Eretz. Et donc, c'est la terre, le globe. D'accord? Parce que quelquefois, il y a des gens qui disent, quand on parle de Eretz, ils disent, ben, c'est Israël. Mais non! Eretz, Israël, ça, c'est Israël. D'accord? Donc, il faut bien préciser de quelle région il s'agit. Et si c'est pas précisé, donc c'est toute la terre. Ça va? Je vous dis ça pourquoi? Parce que dans un verset de Zacharie 14, je crois, il est dit que deux tiers de Haaretz, des humains de Haaretz, vont être détruits. Deux tiers de Haaretz. Et alors, il y a des chrétiens qui disent, ben, c'est deux tiers d'Israël. Ben, je dis, où est-ce que tu as vu marquer Israël, toi? Nulle part. C'est deux tiers de l'humanité. Ah oui, ça prend une autre dimension. Il faut faire vraiment très très attention à ce qu'on lit et ce qui est écrit. On a trop vite fait d'interpréter les choses, vous voyez? Voilà. Alors, on va continuer. Ça va? Vous en avez pas marre? Bon, sinon, il faut le dire. Hein. Alors, ce que je vais vous faire ici, je ne l'ai pas mis dans mon papier. On va voir un petit verset des Proverbes. Il s'agit des Proverbes au chapitre 3. On ne va pas tout voir, on va en voir un, mais un ou deux peut-être. Versets 7 à 10. Chapitre 3, versets 7 à 10. Alors je vous le lis dans la version seconde. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça, c'est le premier verset. D'accord? Maintenant, on va voir le verset qui suit. Donc, vous voyez le contexte. Hein, ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Conséquence de ça. C'est très important de bien situer quelle est la conséquence de craindre l'Éternel, se détourner du mal. On écrit le verset donc 8, et ça commence par un resh avec un i, un p sans dagesh avec un sheva, aleph, un ou et un tav. Alors, vous allez essayer de lire ce mot. Alors, combien on a de syllabes? Il n'y a que deux voyelles, le i et le ou. D'accord? Donc, il y a deux syllabes. On va couper à quel endroit? Le Aleph, il porte le ou. Eh bien oui, donc on va couper là, vous voyez. Alors, est-ce qu'on entend le Sheva? Non. Donc, on lit Rif Out. Rif Out. Bon, ça ne nous avance pas beaucoup. Vous êtes d'accord? Je vais l'écrire. Rif. Rif Out. Est-ce que vous seriez capable de me dire, mais quelles sont les trois lettres de la racine? Est-ce que le Resh peut être un préfixe? Non. Donc, il y a toutes les chances pour que le Resh fasse partie de la racine. Le P. Alors, le Aleph ou le Tav? Ot, comme ça, ça veut dire quoi? C'est un pluriel féminin. Ça, c'est un suffixe. Oui. Mais vous voyez, la racine, c'est Resh, P, Aleph. Resh, P, Aleph. Vous connaissez le prénom Raphaël? Raphaël. Mais regardez, Raphaël, ça utilise ces trois lettres-là. Et Raphaël, ça veut dire Elohim, elle. C'est pas Yodévavé, hein? Elohim qui me guérit. Raphaël. Daniel, c'est elle derrière. Dieu, Elohim est mon juge. Moi, je fais bien la distinction maintenant, hein? Vous comprenez? Donc, ici, c'est, ça parle de guérison féminin pluriel. Eh bien, ça veut dire guérison. Alors, je vous rappelle, hein, ça vient quand on a la crainte de Dieu et qu'on se détourne du mal. On l'a vu juste avant. Hein. Eh bien, dans ce cas-là, ça entraîne quoi? Ça entraîne guérison au pluriel. Prenez-le vraiment pour... c'est la parole de Dieu, hein. Vous voulez guérir? Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. C'est une clé. Et on va trouver plein de clés comme ça dans la parole de Dieu. Donc guérison. Ensuite, c'est quoi ça? Il y a un train qui passe. Ensuite, nous avons un tav avec un dagesh dedans. Avec un Sheva, un E avec un Ilon. Alors ça, vous pouvez le lire, mais pour le comprendre, il faut avoir fait de l'hébreu. C'est de l'hébreu d'ailleurs. Bon, ensuite, ça c'est... c'est un verbe, c'est le verbe être. Donc ça c'est le verbe être, je vous le mets là, qui est le verbe aya, comme ça, et qui est à la base du nom de Dieu. Il suffit de rajouter, vous voyez, c'est avec ce verbe-là qu'on crée le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, il a trois sens. Il a je suis, je serai et j'ai été. Tout ça contenu dans un seul mot. Donc ici, c'est le verbe être. C'est le verbe être. Je vous signale en passant que en hébreu biblique, il n'y a pas de verbe avoir. Retenez bien ça. Parce qu'on n'a rien à soi. On n'a rien à soi. Tout appartient à Dieu. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un verbe avoir. Par contre, il y a un verbe être et nous devons être devant Dieu. Pas la même chose. D'accord ? Et quand on va mourir, on n'aura rien du tout à nous. Hein. On a beau accumuler sur terre. Alors ici, si on le lit, c'est marqué Tehi. Tehi, comme ça. Et ça veut dire ce sera. Guérison, ce sera. Je continue. Alamed avec un Sheva. Un Shin avec un Alon. Un Kof avec un Dagesh. Et un Ségol et un Kaf final avec un A long dedans. Alors ça on n'a pas vu mais on va en parler. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'étais trop vite. Excusez-moi. Excusez-moi, ça c'est le mot suivant. C'est un resh ici. Voilà, ça c'est un resh. Pourtant, voilà, ils ont mis quand même un dagesh dans le resh, mais c'est très rare. Je vais pas le mettre. Voilà. Alors, quand on a un mot comme ça, on peut passer une heure. Non, mais je rigole pas, c'est vrai. Hein. Si on n'a pas des outils pour nous aider à décomposer les mots, ben on se creuse la tête. Alors, on se dit, bon, ici, il y a un lamet devant. Donc ça, ça peut vouloir dire « pour ». Maintenant, je vous dis que si vous avez un préfixe qui se termine par un kaf final, comme ça, avec un alon, un suffixe, oui, pardon, ça veut dire « à toi au masculin ». Si c'est un kaf final avec un sheva dedans, c'est « à toi aussi, mais au féminin ». Donc ici c'est du masculin et là c'est du féminin. Donc, guérison au pluriel, ce sera pour quelque chose à toi. Et là au milieu, vous avez ce quelque chose. Alors on va voir dans le dictionnaire, on dit est-ce que ça existe ? Shin Resh. Et vous découvrez que Shin Resh, ça veut dire nombril, ça veut dire muscle, les nerfs, le cordon ombilical. Autrement dit, si tu crains l'Éternel, Si tu te détournes du mal, tu auras la guérison pour tes nerfs.
Qu'est-ce que ça veut dire encore? Shinresh, nombril,
épée? Alors, ça veut dire nombril, muscle. Tu auras la guérison pour tes muscles. Pour tes nerfs. Et puis aussi pour ton nombril. Les choses, c'est un petit peu... Vous savez, les gens nombriliques... Il n'y a rien de pire que d'être nombrilique. Hein. Des gens, quand ils arrivent quelque part, ils s'imposent. C'est eux. Ils savent tout. Ils conseillent tout le monde. Et voilà. On en connaît des gens comme ça. C'est terrible. Terrible. Eh bien, le meilleur moyen de se guérir, c'est d'avoir la crainte de l'Éternel et se détourner du mal. Mais vous voyez, il y a des choses pratiques là derrière. Le cordon ombilical. Si on veut étudier, alors là, il faut être une infirmière comme toi, mais si on veut étudier le sens profond des choses, je vous assure, il y a de quoi. Hein. Il faut guérir la relation aux parents, à la maman. Et quelquefois, il faut couper le cordon aussi. Parce qu'il y en a, ils n'arrivent pas à le couper. Vous voyez? Donc, alors, on continue. Et ça se trouve dans des textes, qui, on va dire, tout à fait banals. Hein. C'est des proverbes. Oui, mais quand tu commences à faire attention à ce qui est écrit, tu dis mince. Allez, on continue. Et là, on a... Deux. Le mot? C'est... Non, c'est shon. Alors, shor. Regardez. Ça, c'est un shin. D'accord, c'est un shin, ça, hein. Et je mets un O ici. Ça fait chaud. Et un resh.
Et des fois, il est un peu décalé, le O. Il est en train
de chier. Oui, mais voilà, ça c'est shor. Et shor, c'est le nombril. C'est les muscles, c'est le muscle, c'est les nerfs. Donc la guérison de tout ça. C'est pour ça aussi que la guérison elle est au pluriel. C'est plein de guérisons en fait.
Donc ça, ce sont des guérisons spécifiques alors.
Oui.
Tout à fait ciblé,
oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut étudier plusieurs versets pour savoir comment guérir d'autres choses. Ben oui. Tout est écrit, hein. La parole de Dieu, c'est la vie. Hein. Le Seigneur ne veut pas hein, qu'on soit malade. Oui, mais je suis tout à fait d'accord, il l'a dit, mais il a dit aussi que c'est la parole vivante, Yeshua. Donc il contient toutes ces paroles-là. Si on applique toutes ces paroles-là, et pourtant c'est l'Ancien Testament, hein, mais si on applique toutes ces paroles-là, ben on a la guérison. Hein. Mais ça sous-entend, il disait toujours « veux-tu être guéri ?» Veux-tu, ça veut dire est-ce que tu veux te mettre en route? Est-ce que tu veux bien avoir la crainte de l'Éternel? C'est-à-dire, est-ce que tu veux faire attention un peu à ta vie, là? Et si tu ne fais pas attention à ta vie, bah, c'est tout, hein, tu vas en payer les conséquences. C'est mathématique, vous voyez? Alors, on continue, donc. On est arrivé à... V, donc il y a un vav avec un sheva, un shin avec un i, un kof avec un dagesh dedans et un ou, et on termine par un yod. Comment vous lisez ce mot ? V. Chi. Alors ici. Ça, c'est un Y, hein ? Vichikui. C'est un Y, au bout. Ou un I tréma, si vous préférez. V. Chi. Kou. I. Vichikui. C'est difficile de lire un verset en continu, hein, parce qu'on bute sur chaque mot. Hein ? Couille, il va dire. Oui, mais j'osais pas le dire.
Il ne faut pas avoir les idées mal placées non plus.
Non, 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 je sais. Alors, on décompose ça. Devant, on a le vav, qui veut dire « et ». Est-ce que vous voyez un article ? Non. Il n'y a pas d'article. Et alors, on cherche dans le dictionnaire, et on va voir, au moins avec le shin, le kof et le yod, et on va regarder. Et on trouve que ça, bah, c'est un rafraîchissement, une boisson. Donc, si vous craignez l'Éternel, que vous vous détournez du mal, vous avez la guérison des nerfs, etc., etc. Et un, il n'y a pas d'article, rafraîchissement, et on va voir la fin. Ça va ? Ce verset-là, je ne l'ai pas mis. Je m'en excuse. Alors attention, ici, le mot est un peu long. Ça commence par un lamed, avec un sheva. Ensuite, un ayn, avec un a bref. Un tsadi, avec un sheva. Un mem, avec un O long, un Tav, avec un A long, pardon, avec un Ségol, excusez-moi, voilà, un Yod, et ensuite un Kaf final, avec un A long dedans. On va le lire et l'écrire en phonétique. Hein. Mais d'abord, il faut décomposer en syllabes. Faites attention, ne mélangez pas le ayn et le tsadi. Ça ressemble à deux Y qui ne sont pas des Y. D'accord ? Alors, on va essayer de décomposer en syllabes. Combien on a de syllabes ? Alors, on a le O ici, on a le O, on a le E ici. Si, si, mais ça c'est la fin, ça c'est. Le Yod, il n'a pas de. C'est un Y, mais.
En fait, c'est le yod, c'est une consonne hébraïque qui s'écrit comme un Y, une voyelle comme nous.
Oui, c'est, le yod, il peut être voyelle ou consonne.
Ouais.
Il y a plusieurs lettres qui sont comme ça.
Alors, on va couper ici. Première syllabe. Ensuite, on a celle-là. Et puis à la fin, vous avez comme ça. Alors, si on le lit, ça fait les. Alors, apostrophe, parce qu'il y a ein, at. Mais là, on n'entend pas le deuxième sheva. Il ferme. Les at. Mot. Tei. Alors, ici, on peut le mettre comme ça. Mais souvent, on ne l'entend pas. Le yod, là, on ne l'entend pas. Donc, je le mets quand même, mais je le barre. Et on termine par un kaf final avec un A dedans. Leatzmotecha. Leatzmotecha. Et on passe une demi-journée dessus. Alors, c'est embêtant parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, vous avez le préfixe pour. Parce que je vous signale que on parle de guérison au pluriel. Il y a eu les nerfs, etc. Et un rafraîchissement pour. Pourquoi ? On va le voir. Moi, j'aurais bien aimé avoir ça cet hiver, je vous garantis. Parce que j'ai été coincé pendant 7 mois. Alors, le cha à la fin, ça veut dire à toi. Maintenant, vous voyez ici, Teicha. Ça veut dire que c'est un pluriel ici, et on rattache le pluriel à toi. Teicha. Donc, la racine, elle est là. Ein, tsadi, même. Avec l'habitude, on finit par y arriver à décomposer. Et cette racine, ça veut dire un os. Mais ça veut dire beaucoup plus que ça. Parce que quand il est écrit qu'on n'a pas brisé les os de Yeshua, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas brisé son essence, sa personne elle-même. Elle n'a pas été brisée. Son sang a coulé, son âme a coulé. Mais il a pas été, on n'a pas brisé sa structure, si vous voulez. Sa structure. Parce que le mot qui a la racine qui est là, elle a pour sens os, mais aussi essence. Parce que si vous n'avez pas les os, vous ne pouvez pas constituer une personne. Elle ne tiendra pas debout. Vous voyez ? Ce sont aussi les membres, c'est le corps, c'est la force, c'est la substance. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que ce sera des guérisons, ce sera pour tes nerfs, tes muscles, etc., le cordon ombilical, et un rafraîchissement pour tes membres, tes os, ta force, ta substance. Vous vous rendez compte ? Quand vous traduisez ça, mais vous dites, ben moi je vais suivre. Ben oui, ben, crains l'Éternel détourne-toi du mal. Comment je vais savoir si c'est bien ou mal? Eh bien, tu regardes un petit peu les lois de Dieu. C'est écrit dedans. Si tu étudies, ben, tu vas savoir comment il faut faire. Mais si on te dit, vis comme tu veux, de toute façon, Dieu va te pardonner, ben, tant pis pour toi, mon ami. C'est comme ça, non? On ne vit pas n'importe comment. Ça va, c'est clair? Alors, regardez, c'est vraiment, il y a des instructions là-dedans. Si on prend le verset qui suit, c'est « Honore, honore Yod et Vavé, la tribu d'amour, honore-le, depuis tes richesses. » Et depuis tout le commencement de tes revenus. C'est comme ça, hein? Et se rempliront tes greniers abondamment, à satiété, et de vin nouveau, tes cuves déborderont. Bah, mon vieux, quand on étudie ça, je vous le relis.
Depuis tes richesses,
alors, honore, Yod et Vavé, depuis tes richesses.
C'est pas une début de richesse,
depuis, mine. Mine. Et depuis le commencement de tout ton revenu, le début, le commencement, tout est important là-dedans. Et se rempliront tes greniers abondamment à satiété, et de vin nouveau, et le vin nouveau on sait ce que c'est, hein, Saint-Esprit, tes cuves déborderont. Mais si j'applique ça, ma vie elle change. Ma vie, elle change. C'est mathématique, c'est écrit. C'est la parole de Dieu, elle est vivante. Donc moi, j'aime bien aller fouiller les mots. Je dis, qu'est-ce que tu as voulu dire, là, Seigneur? Explique-moi. Et puis, quand tu m'auras expliqué, ben, je vais essayer d'appliquer. Et vous voyez, en fait, tout ton revenu, c'est tout ce qui pousse pour toi. Le mot, c'est... La clé, c'est le mot... Beau, ça veut dire tout ce qui vient vers toi, tout ton revenu. Si tu lui donnes les prémices, mais attention, pas d'un point de vue légal, mais parce que si tu as cette loi au fond de ton cœur, et si tu l'appliques, ben tu verras. Et c'est ça la parole de Dieu, vous voyez? Et c'est ce que je voudrais faire avec vous tout au long de cette année, c'est de prendre des études bibliques, et dedans il y a de l'hébreu, donc on l'épluche, on regarde ce que ça veut dire, on le met dans tous les sens, etc. Et puis on dit, mince, Seigneur, c'est vraiment un livre extraordinaire. C'est un livre de vie. Vous voyez? Un vie, vraiment. Je vais vous donner maintenant la feuille d'aujourd'hui. Donc la fois prochaine, je vous parlerai du prophète Yoël. Yoël. Alors, je vous rappelle que vous pouvez prendre des feuilles pour les gens qui sont inscrits, mais pas pour ceux qui ne se sont pas inscrits. Hein? S'ils veulent avoir une feuille, ils doivent s'inscrire et venir. S'ils ne peuvent pas venir, ben, ils se font remplacer ce jour-là ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas... Alors, Victor, si tu veux... Tiens, merci, Victor. Oui.
Comment savoir que le yacht est une consonne?
Ah bah, par exemple, ici, si tu as comme ça, avec un shiva, bon, bah, ça, c'est une... une consonne avec un sheva. Yé, on écrira yé. Tu vois ?
Oui, mais là, il n'a pas de...
Non, là, il n'y a rien. Et d'ailleurs, on ne l'entend pas, tu vois. C'est un jeu d'écriture, mais on ne l'entend pas. On ne l'entend pas, là. Tu peux le dire, hein. Teira, mais Raïm, il dira Teira.
Une autre question. Vous avez dit tout à l'heure, le Aleph porte le Ou.